La Maison Solidaire est une association stéphanoise qui accueille des personnes migrantes. Une organisation au quotidien pour, entre autres, prendre en charge des mineurs non accompagnés dans les domaines de la santé, la scolarité ou un suivi administratif. Bénévoles et sympathisants donnent de leur temps pour ces jeunes qui fuient un pays, une vie, pour l'espoir d'une situation meilleure. Et la Maison Solidaire souhaite communiquer aujourd'hui autour d'un fonctionnement administratif lourd et compliqué qui mène à la sortie de dispositifs de protection et d'hébergement des jeunes mineurs. Rencontre aujourd'hui avec Valentin Porte, président de la Maison Solidaire, qui nous expose la situation.
La Maison Solidaire à Saint-Étienne, c'est une association qui accompagne des mineurs non accompagnés, donc des jeunes qui arrivent de différents pays, notamment d'Afrique subsaharienne, sans leurs parents, et qui, en tant que mineurs, demandent la protection de l'aide sociale à l'enfance, qui, dans certains cas, ne leur accorde pas cette protection en remettant en cause leur minorité. Donc nous, on accompagne ces jeunes jusqu'à ce qu'ils aient pu faire valoir leur droit au recours devant un juge des enfants, sur le plan de donc l'hébergement, l'accès aux soins, à la scolarité, en fait tout ce dont ils peuvent avoir besoin.
Alors on s'est déjà fait écho sur notre antenne de Radio Ondaine de ce qu'était et la Maison Solidaire avec ce lieu-là qui existait à Bellevue, oui. Avec également les familles accueillantes et les bénévoles autour et ainsi que quelques portraits de ces jeunes mineurs non accompagnés. L'équilibre était déjà un peu précaire, c'était avant l'épisode du Covid. Aujourd'hui, l'équilibre est penchant de plus en plus en défaveur de ces jeunes-là qui se retrouvent ici, dans notre territoire, à Saint-Étienne. Vous avez souhaité communiquer autour de la situation de quelques-uns de ces jeunes. Quelle est-elle, cette situation-là ?
Alors, vous parliez du contexte global qui, oui, effectivement, est rendu difficile, notamment par la crise du Covid, avec des administrations qui fonctionnent pas à fond de leur capacité, ce qui peut impliquer des délais de procédure plus longs, mais également des crises politiques au Mali, en Guinée et en Côte d'Ivoire, qui impliquent que pour obtenir des documents d'état civil pour ces jeunes, c'est devenu aussi plus long. C'est ce qui a créé un petit peu l'embouteillage et le fait qu'on ait de plus en plus de jeunes. Pour ce qui est de la situation qu'on a voulu dénoncer via nos communiqués, c'est que ces jeunes, en plein confinement, en pleine pandémie, se retrouvent, suite au refus du département, livrés à eux-mêmes, et que nos capacités d'accueil à nous sont limitées en raison du Covid également. Voilà, on s'est retrouvés le premier vendredi du confinement avec 4 jeunes à la rue et sans solution, et la semaine d'après, encore 3 autres qui se sont présentés sur l'association. On demande donc au pouvoir public d'organiser l'hébergement de ces jeunes comme ça avait été fait pendant le premier confinement.
Alors effectivement, vos capacités d'accueil sont au maximum et donc il y a encore ces jeunes qui arrivent ici. Pour nos auditeurs et développer un peu cette situation-là, vous hébergez combien de personnes en ce moment ?
Actuellement, pour ce qui est des mineurs en période de recours, c'est 44.
44 mineurs hébergés sur quel lieu ?
Alors, moi j'en ai chez moi en tant que membre du réseau d'hébergeurs et également président de l'association, mais ils sont sinon dispersés sur les foyers de notre réseau, donc ils comportent à l'heure actuelle 70 familles, 70 foyers qui se sont manifestés pour accueillir chez eux un de ces jeunes.
Voilà. Et on comprend bien donc que des jeunes continuent à arriver. Vous avez évoqué la lenteur administrative ici et dans leur pays d'origine qui fait que cette situation est compliquée, voire plus que compliquée pour eux. Et puis, enfreindre la loi à votre niveau mettrait en péril aussi les jeunes qui sont hébergés chez vous, c'est ça ?
Alors, enfreindre la loi, sur quel point ?
Parce que... Sur la capacité d'accueil, sur le fait d'avoir, et peut-être même rester dans les clous de l'association.
Bah, c'est vrai que sur le siège de l'association, le deuxième étage où j'héberge moi en tant que locataire du deuxième étage, ça reste une maison d'habitation, donc les possibilités d'hébergement sont quand même limitées et effectivement il nous est reproché d'être en infraction avec le code de l'action sociale et des familles quand on dépasse un certain nombre de jeunes accueillis donc sur cette partie locative qui m'est réservée, ce qui s'entend en soi parce que c'est pas un hébergement dans des bonnes conditions. Malheureusement, s'ils étaient hébergés, on n'en arriverait pas là, quoi. C'est une évidence.
Le contenu de vos communiqués, c'était établir une situation actuelle des jeunes, on va dire une dizaine de jeunes, hein, et peut-être que ça va encore augmenter, se retrouvent sans solution de logement ou des solutions précaires, un logement peut dans des hôtels, mais qui représente un coût. Et aujourd'hui, ces jeunes-là n'ont aucune réponse d'aucune administration, c'est ça ?
Alors quand on demande au pouvoir public que sont la mairie, l'État, donc la préfecture et le département, chacun d'entre eux nous répond que c'est pas leur compétence, que ces jeunes pour le département ne sont pas mineurs. Pour le 115, donc l'État, ces jeunes sont mineurs, donc ils ne les hébergent pas sur le dispositif, et la mairie nous dit tout simplement que ça relève pas de leur compétence, ce qui en soi n'est pas faux, juridiquement. Mais ça n'empêche pas qu'humainement, les laisser comme ça sans solution, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable.
Alors, vous évoquiez également dans ce communiqué la situation de quelques-uns de ces jeunes, notamment un se retrouvant à devoir dormir en garde de Saint-Étienne. Et puis, il s'est fait voler ses effets personnels, donc lui se retrouve finalement sans rien. D'autres jeunes étaient à l'hôtel et se retrouvent également à la rue.
Alors, c'est malheureusement des situations qui sont pas nouvelles. On a eu régulièrement ces trois dernières années des jeunes qui, après un refus du département, ont passé deux jours, trois jours, parfois plus, dans la rue avant que quelqu'un les identifie et les accompagne sur notre association. Le fait que ce jeune se soit fait agresser et voler ses affaires, heureusement, il était plus choqué qu'atteint physiquement, hein, si je peux dire, mais c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. C'est des choses qui sont récurrentes quand des jeunes se retrouvent tout seuls à dormir dehors dans une ville qu'ils connaissent pas, quoi. Mmh. Pour ceux qui sont en hôtel, on a pu mettre des solutions en place parce que suite à ces communiqués, bah, y a des bénévoles supplémentaires qui se sont manifestés pour héberger. Je trouve que c'est encore une bonne chose pour l'État que ce soit encore des citoyens qui assument cette responsabilité-là. Enfin, on peut pas dire une bonne chose, mais je trouve que l'État a de la chance que les gens en fait évitent des drames humains, hein, parce que c'est ce qu'on évite en fait quand on les héberge ici, quoi.
Alors c'est vrai que en tant que média, on reçoit donc ce communiqué-là et que vous communiquez régulièrement, mais là c'est un appel finalement à la mobilisation entre guillemets, à la prise de conscience. Qu'est-ce que vous demandez à la population, si vous avez quelque chose à demander à la population finalement en soutien, et puis comment ça vous le transmettez au pouvoir public ?
Alors. L'ensemble des communiqués qu'on a pu faire est envoyé directement au pouvoir public. Mmh. On est également soutenu par la Fondation Abbé Pierre et puis par d'autres associations comme la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme ou d'autres. Qui relaient aussi nos actions et qui font du plaidoyer sur la situation de ces mineurs. Pour ce qui est des bénévoles, on a effectivement toujours besoin de personnes qui soient prêtes à héberger, de préférence sur la couronne stéphanoise, puisque bien souvent on arrive à les scolariser au bout de quelques semaines, quelques mois après leur arrivée sur l'association. Voilà ce que je peux vous en dire. Il est vrai qu'aussi, bien sûr, les dons financiers, quand on a besoin de payer des hôtels, ça va très très vite, donc ils sont les bienvenus.
D'accord. Pour à titre d'exemple, combien coûterait un hébergement à l'hôtel pour un jeune, pour une durée d'un mois par exemple?
C'est ce qu'on avait marqué dans un des communiqués, mais on avait calculé que c'était environ 2 200 € pour un mois pour 4 jeunes.
Alors aujourd'hui, effectivement, l'association La Maison Solidaire, ses bénévoles, ce sont donc, comme je viens de le dire, encore des bénévoles qui s'investissent, qui proposent eux-mêmes des hébergements sur une volonté humaine, hein, on est d'accord. L'appel qui est lancé au pouvoir public, la réponse que vous demandez, quelle est-elle? Et finalement, quelles sont les réponses que vous demandez et sous quel délai vous aimeriez les avoir?
Et on aurait aimé qu'ils répondent immédiatement. Notre demande première, c'est que là, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et de ce deuxième reconfinement, il soit immédiatement mis en place des solutions d'hébergement, soit des maintiens sur les dispositifs de mise à l'abri du département, soit des transferts sur les services du 115, donc qui relèvent de l'État. plus globalement, nous, ce qu'on demande, c'est que le droit au recours de ces mineurs soit observé, que la présomption de minorité également, présomption de minorité qui est valable jusqu'à ce qu'il y ait une décision judiciaire qui statue sur leur âge, hein, et dans la mesure où ils ne sont pas encore passés devant un juge des enfants, ils sont bien considérés mineurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrive à les faire scolariser, à leur obtenir une protection sociale. Voilà.
Alors cette présomption de minorité, on comprend, mais pour la définir, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'une personne se présente avec sa date de naissance, il est mineur, quoi. C'est ça. Et ensuite,
en tout cas, c'est ce que dit la loi actuellement, c'est que dans la mesure où une personne arrive sur le territoire et se déclare mineure, elle est considérée mineure jusqu'à ce que l'État ait pu reconstituer son état civil. Qui là encore dans les faits n'est pas le cas, hein, parce que même quand il y a une décision judiciaire qui dise bah non, ce jeune on ne reconnaît pas mineur, il n'y a pas de reconstitution de l'état civil qui soit faite. Voilà. Mais jusqu'à en tout cas qu'il y ait cette décision d'un juge, la présomption de minorité reste valable et doit être observée.
Alors, vous évoquiez en début d'entretien le fait que des situations compliquées dans des pays d'origine font que les documents n'arrivent pas. Là aussi, est-ce qu'on peut, on demande aux institutions, à l'État, d'avoir un œil attentif là-dessus ou c'est peine perdue par rapport à ça ?
Alors, malheureusement, je crois que, la France a toujours un poids politique dans cette région de l'Afrique, mais je suis pas persuadé que des interpellations politiques à notre niveau nous permettent de régler les crises politiques dans les pays d'origine. Non, par contre, que l'État mette à la disposition des services judiciaires des missions pour aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de l'État civil et de la constitution des actes d'État civil, oui, ça devrait être le cas. Ça simplifierait la vie à tout le monde, aux travailleurs sociaux qui pratiquent donc les entretiens d'évaluation de la minorité à l'arrivée des jeunes au département, mais aussi aux juges et aux procureurs lorsqu'il y a des enquêtes sur l'authenticité des documents et sur l'authenticité des déclarations des jeunes quant à leur âge.
Alors quand on établit ça avec la situation actuelle, le confinement, on parle aujourd'hui d'une éventuelle fermeture des établissements scolaires. Qu'est-ce que ça va changer dans cette perspective si jamais elle se confirmerait pour vous, pour votre quotidien et pour ces jeunes-là que vous hébergez et d'autres encore qui ne sont pas encore pris en charge ?
Je dirais que c'est surtout grave pour ceux qui approchent de leurs 18 ans, qui bénéficient d'une prise en charge ou non, puisque pour la grande majorité d'entre eux qui sont pris en charge après leurs 16 ans, l'État et la préfecture demandent à ce qu'ils aient 6 mois de formation professionnelle pour leur délivrer un titre de séjour à leur majorité. Si les écoles professionnelles, les lycées pro venaient à fermer, on a une partie de ces jeunes qui du coup sera pas à terme de ces 6 mois de formation lorsqu'ils vont demander leur titre de séjour à 18 ans. Donc on attend de la préfecture bien sûr qu'elle soit compréhensive et qu'elle mette en place des dispositions particulières. Ça a été le cas pour le premier confinement, espérons que ça soit le cas pour le deuxième.
Ok. Alors, si des auditeurs souhaitent apporter un soutien, de quelconque manière d'ailleurs, comment on peut rentrer en contact avec la Maison Solidaire et se renseigner sur vos actions, vos appels et votre quotidien ?
Alors, notre premier support de communication, c'est Facebook, sur la page de La Maison Solidaire. Voilà. Et puis, on peut nous contacter sur lamaisonsolidaire42@gmail.com. lamaisonsolidaire42@gmail.com. Nous n'avons pas de site internet, malheureusement, on n'a pas le temps et l'argent à consacrer à la création d'un site internet. Mais voilà, on est très réactifs sur Facebook et par mail.
Ok, bon, en tout cas, merci d'avoir répondu et d'avoir témoigné un peu de votre situation sur l'antenne de Radio Ondaine.
Merci à vous pour cette interview.